France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. L'Union rationaliste a remis son prix 2025, le 19 janvier 2026, dans les locaux de l'École normale supérieure, à l'association Stand Up for Science. Cet organisme naît face aux multiples attaques de l'administration Trump contre la science, la démocratie et la liberté académique. Nous y avons entendu le prix Nobel Jack Szostak, prix Nobel de physiologie, Colette Delawala, fondatrice de Stand Up for Science, et Myriam Bassi, la directrice éditoriale de l'association, qui nous ont tous expliqué la nécessité et l'importance de ce combat pour les sciences et la démocratie au niveau mondial. Car les dégâts collatéraux de cette politique désastreuse sont innombrables au niveau de tous les pays du monde. Aujourd'hui, et dans la droite ligne du combat de Stand Up for Science, j'ai le plaisir d'accueillir les deux responsables des deux prochains numéros de Raison Présente, les numéros 237 et 238, intitulés « Pouvoir au pluriel et science au pluriel ». Philippe Askenazy, vous êtes en studio, bonjour.
Bonjour.
Mathilde Viennot, vous nous parlez depuis Vannes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux économistes, membres du comité de rédaction de Raison Présente. Philippe Askenazy, vous êtes économiste du travail et de l'innovation. Et vous, Mathilde, vous avez cofondé l'Institut Avant-Garde pour la planification écologique et la protection sociale. C'est très peu de temps après l'élection de Donald Trump aux États-Unis que vous avez ressenti l'impérieuse nécessité de ces numéros qui porte non seulement sur ce qui se joue aux États-Unis aujourd'hui, mais aussi déjà en Europe et en France notamment. Alors, j'aimerais que vous explicitiez, que vous déployiez les raisons qui ont imposé ces numéros, Philippe Askenazy.
Oui, alors tout à fait. En fait, on aurait pu penser qu'avec cette réélection de Donald Trump, on aurait une forme de pure répétition de la situation de 2017, où il y avait eu les grandes marches pour la science à travers le monde, notamment à Washington, et qui était une réponse à Donald Trump et son administration qui affichait déjà une hostilité face à la science, et notamment contre les sciences du climat, avec la dénonciation que le changement climatique n'existerait pas. Mais ce qui nous motivait, c'est que on n'est pas dans cette pure répétition, parce que en 2017, on était dans une situation où il y avait donc ces sortes de diatribes, mais finalement relativement peu d'action, et ça se contentait autour du personnage de Donald Trump, de son administration. Aujourd'hui, on est dans une situation différente où on a des pouvoirs qui additionnent leurs attaques autour d'un rassemblement d'idéologies néoconservatrices et techno-libertariennes. Donc on a à la fois le pouvoir politique, une part du pouvoir religieux, et puis, et ça c'est une grande différence par rapport à 2017, un alignement du pouvoir économique, notamment des grands milliardaires américains, et qui sont aussi détenteurs du pouvoir médiatique. Donc on a un front qui est nettement plus puissant, qui a une assise idéologique. Ce n'est pas que quelques mots lancés par Donald Trump. Et donc, notre volonté, c'était, dans ce numéro, non pas de faire comme Stand Up for Science, qui est une défense des scientifiques au niveau américain et au niveau mondial, mais plutôt de faire science, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui est en jeu, de voir s'il s'inscrit dans des dynamiques longues aux États-Unis et quels sont les échos que l'on trouve aujourd'hui en Europe. Et c'est là aussi qu'il y a une grande différence par rapport à 2017, c'est que le schéma américain se retrouve, et notamment en France.
Mathilde ?
Oui, tout à fait. Pour appuyer ce que vient de dire Philippe, en France, on assiste à ce discours montant qui conteste la légitimité du de certains objets, de certaines approches, de certains résultats scientifiques. Et donc, cela participe d'un processus plus large de délégitimation complète du champ scientifique. Et puis donc c'était vraiment pour éclairer cette actualité récente qu'on a souhaité mettre en perspective longue les rapports entre les pouvoirs et les sciences.
Vous avez donc décidé de construire deux numéros. Le premier, celui sur lequel nous parlons aujourd'hui, aborde des questions transversales et le deuxième portera sur des champs scientifiques particuliers de la climatologie à la sociologie. Nous allons nous concentrer donc sur ce numéro 237 qui comprend 7 contributions réparties selon 4 moments d'analyse. Alors je vous propose à tous les deux de rechercher dans ces 4 moments les analyses et les exemples qui vous semblent les plus emblématiques, les plus éclairants, les plus parlants pour les auditeurs de France Culture de ce qui se joue entre pouvoir et science aujourd'hui. Alors pour le premier, peut-être la science comme objet politique et militaire, Mathilde Viennot.
Oui, tout à fait. Donc c'est Harry Bernas dans son article pour la revue, donc qui est un physicien spécialiste de l'histoire du nucléaire, qui revient sur les liens entre les sciences et l'ordre libéral aux États-Unis, notamment avec le développement du nucléaire après 1945. Ce qu'il montre, c'est que la science, à cette époque, se développe de façon exponentielle, mais pas seulement grâce aux connaissances fondamentales, mais surtout grâce aux guerres. Mmh. Et puis donc en fait, on a un pouvoir politique militaire qui est mêlé avec la science, puisqu'on a 3000 scientifiques avant 1940 et plus de 300 000 20 ans plus tard. Ça, c'est possible grâce à un budget militaire illimité, donc un pouvoir politique qui permet un capitalisme industriel, donc un pouvoir économique, qui lui-même incorpore des visions et des méthodologies scientifiques. Le nucléaire illustre cela très bien, mais pas que. Ce qu'on voit, c'est que dans les travaux scientifiques qui aboutissent soit à la 5G, aux réseaux satellitaires, aux publicités ciblées, tous sont issus de la surveillance militaire. Et donc aujourd'hui, aux États-Unis, les travaux faits par les géants GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, sont tous liés à des étages du pouvoir d'État et ne font plus de distinction entre militaire et civil. Le problème, c'est que cela a un impact majeur sur la science elle-même et puis sur son rapport à la technologie. Par exemple, les conséquences directes de cela, ça va être l'accent qu'on va mettre sur la fraction des recherches qui seront rentables. Ou alors aussi sur l'appropriation privée de la science par des brevets. Et malheureusement, tout cela, c'est un mépris total pour la science en tant que bien commun.
Vous consacrez également un moment d'analyse à l'éducation à la science. Alors, Philippe Askenazy.
Oui, et l'éducation plus généralement. Donc, il y a deux articles qui sont spécifiquement sur cette question et qui quand même traversent l'ensemble du numéro, mais puisqu'il s'agit d'en choisir un, j'insisterai sur celui de Johann Stavo de Bosch, donc qui est un sociologue, qui nous propose une analyse des attaques aujourd'hui aux États-Unis, enfin une forme même de croisade, mm-hmm. contre ce qui est appelé la Critical Race Theory. En fait, c'est une théorie qui n'existe pas véritablement, mais qui est une construction une cible stratégique de forces conservatrices religieuses aux États-Unis qui ont été vendues à Donald Trump pour en faire une forme d'ennemi idéal, ennemi qui inspirerait les manuels scolaires de la petite enfance jusque au niveau universitaire. Et donc concrètement, l'idée, c'est de cette mobilisation et de limiter l'enseignement de l'histoire raciale et des discriminations à travers des lois, des censures, donc qui peuvent avoir lieu au niveau des États américains ou au niveau fédéral, et une surveillance accrue des enseignants par donc même des groupes de parents. Et ce qu'il y a d'assez fascinant, c'est qu'il y a une forme de renversement de l'idéal anti-discrimination. Parce que ben finalement, ils se disent, ben, s'il ne s'agit de pas discriminer, on va être aveugle à la couleur, on est colorblind, ce qui signifie qu'en fait, on efface totalement toute notion de discrimination entre les populations américaines avec, au bout, une contribution en réalité à maintenir la domination culturelle blanche aux États-Unis. Et c'est ce coin-là permet d'attaquer plus généralement l'ensemble de l'éducation américaine et même l'éducation à la science, aux sciences dites dures aux États-Unis. Et ce qui est assez fascinant, voilà, on pourrait se dire, c'est un moment particulier de l'histoire, c'est que Savoie de Beauce l'inscrit dans une histoire longue américaine. Il remonte un siècle en arrière pour montrer qu'on a exactement les mêmes types de ressorts des croisades, des fondamentalistes protestants contre l'enseignement de l'évolution. Et on y retrouve donc ces mêmes grands ressorts qui sont un anti-intellectualisme, la méfiance envers la science, une peur aussi du changement social et qui mêle donc à la fois racisme, religion et rejet de la pensée critique. Et alors même que la pensée critique, c'est un fondement de la démocratie. Et on voit là l'élément finalement de convergence de l'ensemble de ces pouvoirs qui cherchent à être autocratiques. Et donc, ils ont un ennemi commun qui est la science.
Comme le temps passe, je ne fais qu'annoncer les deux prochaines rubriques de la revue. Une rubrique, la troisième rubrique, comporte une réflexion sur la puissance du pouvoir économique et une autre sur l'éthique et les valeurs de la science. J'aimerais que nous parlions maintenant du néolibéralisme qui, de façon générale, conduit à une privatisation massive de la recherche avec un creusement toujours plus important des inégalités entre citoyens, entre nations. Et face à cette offensive néolibérale, sommes-nous désarmés face à cette tendance lourde et quelle résistance pouvons-nous proposer, Mathilde Viennot?
Tout à fait. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment des liens très forts entre le capitalisme et puis donc le financement privé de la science et une certaine vision utilitariste de la science. En fait, le pouvoir économique et le pouvoir politique ne promeuvent la science seulement si elle permet la réalisation de leur propre but. Et c'est en ce cas seulement, ils vont lui apporter les moyens nécessaires. Alors, que faire? Pour moi, il y a deux grands axes de solution. Le premier, c'est ce que peut faire le pouvoir politique. Mmh. Et ça, c'est ce que nous dit Isabelle Tisse-Saint-Jean, qui est professeure d'économie et ancienne présidente de Sauvons la recherche,
oui,
qui en fait nous dit qu'il y a trois conditions majeures pour une science en bonne santé. C'est attractivité des carrières scientifiques, c'est des financements suffisants et c'est la garantie de la liberté académique. Ce qu'on voit, c'est que les gouvernements successifs, en France comme ailleurs d'ailleurs, ont maltraité et puis même sacrifié ces trois conditions. Donc là, c'est déjà un premier chantier pour le pouvoir. Mais l'autre solution passe aussi par les scientifiques. Parce que finalement, la façon de faire la science, c'est-à-dire orienter l'exploration scientifique, l'organiser, l'appliquer, c'est une affaire humaine. Et donc, les scientifiques ont une tâche urgente d'agir, de s'engager en tant que citoyen, et ce, bien au-delà de la seule propagation de savoir. C'est vraiment repenser comment faire science, et puis donc, c'est se mobiliser pour pouvoir résister.
En un mot?
Oui, alors, donc très rapidement, il y a un pilier pour cela, c'est de s'appuyer sur l'éthique des scientifiques. Et ça s'est développé au sein du numéro, notamment par Étienne Bustaré, qui est un physicien, sur les questions des mécénats économiques, enfin des entreprises. Et on comprend là aussi, et je vous invite à lire l'article donc d'Emmanuel Ferrand et de Michel Leduc, donc un mathématicien et une physicienne, justement sur comment l'administration de Trump cherche à retourner l'éthique scientifique contre la science elle-même. Et on voit là aussi les éléments de manipulation, tout ce qui peut être protection pour notre science sont attaqués par ces idéologues qui ont un plan très clairement construit.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Le combat que nous menons pour la défense de la science et de la démocratie est celui de l'Union rationaliste que je vous invite à rejoindre. Mathilde Viennot, Philippe Askenazy, je vous remercie.
Merci.
Merci.
Dans le combat donc qui est le nôtre, aujourd'hui plus que jamais pour la science et la démocratie, nous avons besoin de militants actifs, de scientifiques, de rationalistes. Et nous vous proposons de nous rejoindre comme nous vous proposons nos analyses dans les différents numéros de Raison Présente, dont ce numéro 237 qui vient de paraître. Raison Présente qui, comme toutes les revues, a toujours besoin de plus de lecteurs. Donc je vous invite à rejoindre notre combat pour la défense des sciences et de la démocratie. Je remercie à la technique Jean-Guilain Meige, à la réalisation Philippe Baudouin et pour le site, je remercie sur France Culture Claire Poinsignon et Nathalie Comte à l'Union Rationaliste et je vous dis au mois prochain.